RJB Info. Violette Ferreira.
Bonsoir. Les antiséparatistes se sont réunis toute la journée pour célébrer le jubilé du 16 mars 1975. Demain, cela fera 50 ans que la population du Jura bernois a choisi de rester bernoise. Une matinée politique suivie d'un après-midi culturel avait lieu au Centre interrégional de perfectionnement à Tramelan. Une journée qui a rassemblé quelques 80 personnes. Reportage. Dans l'enceinte du CIP, les militants antiséparatistes sont accueillis au son d'un accordéon. L'événement mis sur pied par Force démocratique se veut convivial et festif. Michael Schlappard, organisateur.
L'idée, c'est aussi de remercier d'une certaine manière tous les gens qui ont participé de près ou de loin, depuis les plus anciens jusqu'aux plus jeunes. Donc, personnellement, j'ai aussi été actif dans ces mouvements il y a bientôt une dizaine d'années. J'ai repris du service uniquement pour cet événement. L'idée est vraiment de marquer une fin. On arrive, je pense, à la fin d'un cycle au niveau politique. Et puis, cet événement, il vise vraiment à le marquer. Et puis, on voit que le Jura bernois, il est à la croisée des chemins. Il y a plein d'opportunités qui se présentent. Il y a bien sûr la séparation de Moutier, un élément qui est important, qui va durablement marquer la région. Donc, on passe maintenant à autre chose. Et puis, je pense qu'il y a aussi l'idée, le souhait de ces mouvements de mettre un terme à une époque.
Les salutations faites, le moment est venu de se diriger dans l'auditorium pour le lancement du congrès. Les discours se succèdent.
Or, à mon sens, il faut impérativement éviter de construire un nouveau fossé avec notre voisin urbain du Sud. Le Jura bernois n'en veut pas, Bienne non plus d'ailleurs.
Hervé Gulotti, maire de Tramelan.
Pensons collaboration, pensons promotion active de la minorité. Nous avons suffisamment subi avec la question jurassienne du mur érigé au nord, et je me plais à croire que les collaborations que nous pourrons développer, nos communes et la cité sélandaise, feront sourciller les messagers du Grand Jura.
À l'heure où Moutier prépare son avenir dans le canton du Jura, se pose la question du futur des mouvements de lutte antiséparatiste. Patrick Rutlisberger, vice-président de Force démocratique.
On a eu un comité la semaine dernière où on a mis le point à l'ordre du jour, déjà pour prendre la température, et on a donc décidé de réfléchir jusqu'au début de l'année prochaine, où là on fera le point définitif si on met en veille ou si on dissout. Rien n'est décidé encore. Pour nous, c'est clair qu'actuellement, il n'y a plus un combat, puisqu'il n'y a plus de votation à venir. Quoique, il faut toujours se méfier, parce qu'en 1975, tout le monde avait dit « c'est fini ». Et on voit que ce n'était pas le cas.
Après un banquet à midi, le programme s'est poursuivi sur un après-midi culturel fait d'archives de la RTS. Ce soir, les participants sont conviés à déguster ensemble la traditionnelle fondue du 16 mars à Reconvilier. Un reportage sur le jubilé du second plébiscite du 16 mars 1975 en cette veille de 50e anniversaire. A noter que le groupe Sanglier, quant à lui, n'a pas souhaité communiquer ses intentions pour l'avenir de son mouvement. Les nuits de la chouette sont de retour. Durant tout le mois, vous pourrez observer cet animal nocturne dans ses différents lieux de vie. Des ateliers d'observation sont organisés ce week-end. C'est le cas ce soir sur réservation au fumoir de Champeau. Romain Furst est biologiste responsable du projet Nature au parc Chasseral. Il revient sur les différents lieux de vie des espèces.
Alors vraiment, chaque espèce a son habitat. On a vraiment des espèces comme la chouette de Tengmalm ou la chevêchette d'Europe qui sont strictement forestières. Elles vont jamais quitter leur forêt. C'est des espèces qui sont originaires de la forêt boréale et qu'on retrouve ici chez nous dans les forêts d'altitude. D'autres espèces vont plutôt être liées à des milieux semi-ouverts, des pâturages boisés. Ils ont besoin à la fois d'espaces de culture, d'espaces ouverts pour chasser, mais aussi d'arbres pour se percher et pour la nidification. Et puis, on a aussi une espèce principalement l'effraie des clochers, qui, elle, est vraiment liée à la zone bâtie qui va nicher, comme son nom l'indique, dans des clochers, mais qui apprécie aussi énormément le milieu agricole, qui utilise les granges, les fermes pour construire son nid.
Vous dites que ces chouettes, elles chassent. Est-ce que ça veut dire qu'elles se nourrissent de petits animaux ?
Oui, alors les rapaces nocturnes, c'est tous des prédateurs, donc qui chassent de nuit. C'est principalement des petits rongeurs dont elles vont s'alimenter. Ça constitue vraiment la grande majorité de l'alimentation des rapaces nocturnes. Et d'ailleurs, une caractéristique de ces rapaces nocturnes, c'est qu'ils vont régurgiter une partie des proies après la digestion, les fameuses pelotes de réjection, dans lesquelles on va trouver des os, des dents de micro-mammifères et les poils, donc qui ne vont pas pouvoir digérer, et qui ressortent par la bouche une fois que la digestion de la proie est terminée.
L'atelier d'observation sur réservation prévu ce soir est organisé par le Centre d'études et de protection des oiseaux. Bienne, c'est nous. Voici le slogan de la semaine d'action contre le racisme qui débute aujourd'hui à Bienne. Jusqu'à samedi prochain, 17 événements sont organisés et proposés gratuitement. L'idée, selon Tamara Iskra, déléguée à l'intégration pour la ville de Bienne, c'est de sensibiliser aux risques pour le bien-être et le vivre ensemble.
Le racisme, c'est quelque chose qui menace pas seulement des personnes privées, mais aussi une société. Et c'est pour ça que c'est très important qu'on regarde ensemble, qu'on discute ensemble, parce qu'une société solidaire doit se rencontrer sur le même niveau. Il faut qu'on regarde bien un à l'autre. Et puis, ça nous donne aussi notre richesse et notre sécurité dans la ville. Nous, on fait toujours, tout le monde, des petits ou des grandes discriminations à des autres personnes. C'est normal. La plupart des personnes ne font pas exprès ça. Et là, c'est vraiment important qu'on est tous attentifs. Je m'excuse et la prochaine fois, je vais être plus attentif que je fais plus ça.
Et l'an passé, le cabinet d'action bernois Ensemble contre la violence et le racisme a reçu 39 signalements de biennois. Elles ont découlé sur 20 plaintes. Près d'un vélo sur deux vendu en Suisse est un vélo électrique. C'est ce qu'indique aujourd'hui Vélo Suisse. L'association de fournisseurs de bicyclettes précise également que les ventes ont baissé de près de 14% par rapport à 2023. Pour l'organisation, le secteur du vélo se trouve dans une phase de consolidation après le fort taux de croissance des années Covid. La chef du secrétariat d'État à l'économie se rendra à Washington la semaine prochaine. Hélène Boudlicker-Artieda rencontrera le gouvernement de Donald Trump. Si les détails de cette rencontre ne sont pas encore connus, le SECO a indiqué qu'il s'agira d'une prise de contact. Il n'est donc pas prévu de négociation ni d'adoption de texte. Allons-nous vers des restrictions d'entrée aux États-Unis ? C'est en tout cas une mesure en réflexion, selon le journal New York Times. Cela pourrait concerner 43 pays classés en trois catégories. Une rouge interdisant l'entrée aux États-Unis pour les ressortissants de l'Afghanistan, Cuba ou encore la Corée du Nord. Une catégorie orange, synonyme de restriction de visa, incluant par exemple la Russie et Haïti. Et une catégorie jaune, dans laquelle figurent 22 pays. La liste est élaborée par le département d'État. Elle parviendra plus tard à la Maison-Blanche. Marée de manifestants en Serbie depuis ce midi, les foules affluent à Belgrade pour protester contre la corruption et le gouvernement en place. Le mouvement lancé par les étudiants serbes s'annonce déjà historique. Des dizaines de milliers de personnes de tous les bords politiques sont réunies. Le rassemblement qualifié de calme et responsable par les étudiants doit se disperser à 21h. La balle est dans le camp de la Russie, c'est ce qu'a indiqué aujourd'hui le Premier ministre britannique. Keir Starmer s'exprimait à l'issue d'un sommet virtuel organisé avec plus d'une vingtaine d'alliés de l'Ukraine. Cela intervient alors que l'Ukraine s'est montrée favorable à un cessez-le-feu de 30 jours et que Moscou dit vouloir une position plus solide sur le champ de bataille avant d'accepter une trêve. Le Mozambique, frappé par un cyclone, l'Institut de gestion des risques et désastres, fait état d'au moins 16 morts. Le cyclone baptisé Jude a balayé ce pays d'Afrique australe avec des rafales de vent atteignant les 195 km/h. C'est le troisième cyclone depuis décembre à toucher le Mozambique.
RJB Sport.
Nouveau triplé pour les skieurs suisses en Coupe du Monde, cette fois-ci en géant, ce qui n'était plus arrivé depuis 1983. À Afjell, en Norvège, Loïc Meyer s'est imposé avec 14 centièmes d'avance sur Marco Odermatt et 23 sur Thomas Tumler. Odermatt remporte ainsi son quatrième globe de la spécialité. Audi est aussi assuré de gagner pour la quatrième fois le classement général avant les finales de Coupe du Monde qui auront lieu la semaine prochaine à Sun Valley aux États-Unis. Vincent Costa.
Loïc Meyer a remporté à Afjell, station boudée depuis 22 ans par la Coupe du Monde, le troisième succès de sa carrière en géant, le premier cette saison. Déjà en tête au terme de la première manche, le Neuchâtelois des Raymans a fait la différence sur le haut de la piste en seconde manche. Marco Odermatt devra donc attendre avant de signer un 46e succès en Coupe du Monde. Mais en ajoutant deux globes de cristal à sa fantastique carrière, le Nidwaldien de 27 ans est le grand gagnant du jour. C'est tout le ski suisse qui gagne gagne aujourd'hui. La génération actuelle soutient décidément la comparaison avec l'époque de Pirmin Zurbriggen. L'équipe masculine vient même de battre un record vieux de 40 ans. Elle a signé 40 podiums cet hiver, deux de plus que sa glorieuse devancière durant la saison 1984-1985. Nous devons en profiter parce que ce n'est pas évident, a déclaré Loïc Meillard au micro de SRF.
Mauro Schmidt, tout proche de la victoire, le cycliste suricois a terminé deuxième de la septième et avant-dernière étape du Paris-Nice, reliant Nice à Oron sur près de 110 km cet après-midi en France. Il a concédé 20 secondes au vainqueur australien Michael Storer qui concourt pour la formation suisse Tudor. L'américain Matteo Jorgensen conserve son maillot jaune de leader. Les curleuses suisses débutent leurs mondiaux par une victoire. Les championnes d'Europe en titre se sont imposées 5-4 face aux États-Unis aujourd'hui à Wichungbu pour leur premier match de ces joutes coréennes.
RJB Sport.
On fait le point sur la météo avant de se quitter. Le temps sera très nuageux avec des averses, surtout sur les reliefs ce soir et cette nuit. La limite pluie-neige s'abaissera de 600 à 800 mètres d'altitude au cours de la nuit. Demain matin, les températures seront de 2 à 4 degrés sur le Seeland, 0 dans les vallons et moins 5 degrés sur les crêtes, pour ce qui est du plus froid. Merci de nous avoir suivis. Bon samedi soir à toutes et à tous et merci d'être fidèles à RJB.